L'un des récits bibliques les plus connus est celui de Pierre reniant le Christ à trois reprises. On peut se demander combien d'individus dans les Écritures vont être embarrassés au fil du temps, car je suppose que tous ces récits existeront encore pendant le millénium. Mais nous ne pouvons qu'imaginer à quel point Pierre était embarrassé après avoir professé qu'il mourrait même pour le Christ et l'avoir ensuite renié trois fois. Nous savons que cela l'a plongé dans une grande tristesse et dans les larmes. Dieu lui a certainement pardonné. Parfois, Dieu permet que ces choses se produisent pour une raison, pour le reste d'entre nous. Il ne s'agit pas seulement de Pierre. Il y a une leçon pour vous et pour moi. Ainsi, son erreur, pourrait-on dire, a pour but de nous aider à ne pas commettre des erreurs similaires. Je dis similaires, bien que nous ne sommes pas tout à fait dans la même situation que lui, nous pouvons aussi renier le Christ. Nous savons aussi que quelques semaines plus tard, il était courageux comme un lion. Prenons un exemple dans le livre des Actes, Actes chapitre 3, versets 1 à 8. Actes chapitre 3, versets 1 à 8, au début de l'Église après la Pentecôte. Actes 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Nous ne pouvons qu'imaginer à quoi ressemblait cette scène. Vous savez, Dieu devait lui donner une aide extraordinaire. Si vous n'avez jamais marché, vous devez apprendre à marcher comme le font les petits-enfants. Non seulement Dieu lui a donné la force physique, car je suis sûr qu'il était un peu chancelant sur ses jambes au début, dans le sens où il ne savait pas du tout où les mettre. Il s'accroche donc à Pierre et à Jean. Et tous les gens le voient marcher et louer Dieu. C'est ce que nous lisons ici, et nous constatons qu'au chapitre 4, Pierre prêche un sermon aux gens, et il leur parle de celui qui rendit possible que ce boiteux marche. Acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple et les sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. On pourrait penser que les gens seraient heureux qu'il y ait une résurrection des morts. Mais comme nous le lisons dans Acte 23, je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais vous pouvez le vérifier, ce n'est qu'un de deux endroits où cela est mentionné. Acte 23, verset 8 dit que les sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. C'est intéressant, car quel serait l'espoir de quiconque s'il n'y a pas de résurrection? S'agit-il seulement de ce temps sur cette terre? Cela changerait certainement notre façon de vivre si nous n'avions pas l'espoir d'une vie éternelle. Et s'il n'y a pas de résurrection, il est difficile de dire exactement ce qu'il croyait. Mais dans Acte 4, verset 3, ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Verset 5. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe. Il est fréquent que les gens ne comprennent pas que les sadducéens étaient en réalité les autorités religieuses, les sacrificateurs et les responsables du temple. Les pharisiens retiennent davantage l'attention. Les gens sont plus attentifs à eux, parce que ce sont eux qui s'occupaient le plus des synagogues. En ce qui concerne le temple, c'était les sadducéens qui étaient la véritable autorité. Au verset 7, il est dit, qui les ont fait sortir de prison, et ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Guéris cet homme! » Au lieu d'être reconnaissant et de se réjouir du fait que cet homme était guéri, ils se demandaient comment il l'avait fait, pourquoi il l'avait fait, et ce qui leur donnait l'autorité de le faire. Verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, c'est de cela qu'il s'agissait, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui l'avait renié quelques semaines auparavant, que vous avez crucifié. Réfléchissez à cela. Il a dit, le Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, il leur lançait cela en pleine face, pour ainsi dire, et que Dieu a ressuscité des morts, verset 10. Vous ne croyez pas à la résurrection, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, citant l'Ancien Testament, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le verset 12 est crucial. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous devions être sauvés, et ceux qui pensent que nous pourrions être sauvés par un autre moyen, par Bouddha ou d'autres organisations ou d'autres pensées religieuses, se trompent totalement. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils remarquèrent qu'ils étaient sans instruction, sans formation. En d'autres termes, ils n'avaient pas reçu la formation habituelle. Il y a ceux qui vont dans des séminaires. Nous les appelons parfois des séminaristes. Ils vont dans des séminaires et ils ont tous ces docteurs, ces lettres et toutes ces choses, des doctorats derrière la cravate. Et ils revendiquent une grande éducation et ils peuvent parler le grec ou l'hébreu, quoi que ce soit d'autre. Ils considéraient avec mépris les apôtres comme étant des hommes sans éducation. Verset 13. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Qu'allait-il dire? Il était très clair qu'il avait été guéri. Et le verset 15. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. On aurait pu penser qu'ils se réjouiraient, mais non. » Verset 16. « Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. » Verset 17. « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Notez ce qu'ils répondent. Verset 19. « Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Qui devons-nous écouter, Dieu ou vous? Ils leur ont très bien présenté la question. Verset 21, ils leur firent de nouvelles menaces et ils les relâchèrent. Nous poursuivons dans Acte 5, où la parole de Dieu se répandait largement dans la région de la Judée, dans Jérusalem et ailleurs. Au verset 17, il est dit, « Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. » Verset 19. « Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ainsi, lorsque les autorités se sont rendues à la prison, ils n'étaient plus là. Et tandis qu'ils cherchaient à comprendre ce qui se passait, au verset 24, lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Le peuple voyait un homme guéri. Il se réjouissait. Il était heureux pour l'individu. Il reconnaissait que c'était de Dieu. Mais ses autorités ne pouvaient pas l'accepter. Mais elles avaient peur de faire quoi que ce soit, car le peuple les aurait lapidés. Verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Vous voulez nous rendre responsables de la crucifixion de cet homme, le Christ. » Et verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Encore une fois, c'est un verset très important. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La déclaration audacieuse de Pierre, et en particulier l'affirmation « nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », est un signal d'alarme pour chacun d'entre nous. Elle est bien plus importante que les simples mots que nous lisons dans une belle histoire. Pourquoi est-ce si important? Eh bien, la réponse est que beaucoup des erreurs que vous et moi commettons, que chacun d'entre nous commet, sont le résultat de la crainte des hommes plutôt que de la crainte de Dieu. Je sais que beaucoup de gens diraient « Je crains Dieu, je ne crains aucun homme ». J'ai entendu des gens dire cela. J'ai entendu un individu dire essentiellement cela. Mais quelle direction a-t-il prise? Il a fait prendre à l'Église une très mauvaise direction, parce qu'il ne voulait pas, comme il l'a lui-même reconnu, qu'on la considère comme une secte. Il y a eu beaucoup de choses dans tout cela et je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais le fait est que les gens peuvent professer qu'ils craignent Dieu, mais beaucoup des erreurs que chacun d'entre nous commet sont dues au fait que nous sommes préoccupés par ce que les autres individus pensent. Aujourd'hui, nous allons donc examiner comment les gens craignent les hommes plus que Dieu et quelles en ont été les conséquences. Nous verrons aussi des exemples où les gens ont placé Dieu au-dessus de la crainte des hommes. Commençons donc par des exemples d'individus qui craignaient les hommes plus que Dieu et quelles furent les conséquences. Reportons-nous à 1 Roi 12. 1 Roi 12, et en réalité, tous ces exemples nous sont très familiers. Mais nous devons nous concentrer sur les raisons pour lesquelles ils ont commis les erreurs qu'ils ont commises. Dans 1 Roi 12, nous lisons comment la maison d'Israël et la maison de Juda se sont séparées. Roboam a suivi les conseils des hommes les plus jeunes, et je suppose que c'est assez intéressant parce qu'il s'agissait de ses pères. Ce sont les gens dont il se sentait le plus proche. Et peut-être les craignait-il plus que les plus âgés, la vieille garde, qu'il pouvait simplement écarter. Un peu comme les adolescents préfèrent faire confiance à leur père plutôt qu'à leurs parents. Parce qu'ils sont plus préoccupés par ce que leur père pense d'eux. Sont-ils cool? Font-ils partie de la bande? Sont-ils d'accord avec eux plutôt qu'avec leurs parents? Pensez-y, jeunes gens, il est très important que nous regardions ces choses dans la bonne perspective. Mais ici, le roi Roboam était plus préoccupé par ce que les jeunes hommes pensaient. Il a donc donné au peuple une réponse très dure, et en conséquence, nous avons une division, la maison de Juda et la maison d'Israël. Le chef de la maison d'Israël s'appelait Jéroboam. Jéroboam devait être quelqu'un de compétent. Il n'était pas une mauviette, pour ainsi dire. C'était un homme capable, un homme fort, quelqu'un que l'on estimait. Regardons ce qui est écrit pour Jéroboam. Regardons dans 1 Roi 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, C'est ce qu'il pensait. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Nous avons ici la situation où Jéroboam pouvait faire confiance à Dieu et faire ce que Dieu avait prévu, dans le sens où Dieu avait provoqué le conflit à cause des péchés de Salomon et de toutes les choses qu'il avait faites. Dieu allait séparer Israël de Juda. Et il a choisi Jéroboam pour le faire. Si vous lisez toute l'histoire, vous verrez qu'il avait été ordonné auparavant pour ce travail. Mais maintenant, il se préoccupe de sa propre vie au lieu d'obéir à Dieu. Il avait le choix. Il aurait pu obéir à Dieu et tenter sa chance de cette manière. Non, il a eu peur de ce qu'il allait se passer, et la peur l'a poussé à prendre une très, très mauvaise décision. Ainsi, au verset 31, Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il fit un veau à Bethel, un autre à Dan, et il dit au peuple que c'était les dieux qu'ils avaient. Verset 32. Il établit une fête au huitième mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Il prit donc la fête des tabernacles et la déplaça d'un mois, une période plus propice. C'était encore une bonne période de l'année, mais toutes les récoltes seraient rentrées, ce qui la rendait un peu plus pratique. Il choisit Dan et Bethel, parce que l'une était au nord, l'autre au sud. Ainsi, il serait donc plus facile d'y aller que de descendre à Jérusalem pour le peuple. Verset 32. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 33. Il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Si vous lisez les livres de 1 et de 2 rois, vous constaterez que la maison d'Israël ne s'est jamais remise des péchés de Jéroboam. Il est dit qu'un roi après l'autre, ils suivirent les péchés et les voies de Jéroboam qui les avait commencés. Et quel désastre ce fut à cause de sa crainte des gens plutôt que de la crainte de Dieu. Un autre exemple très célèbre se trouve dans 1 Samuel 15. C'est le moment où Dieu envoie Saül en mission et lui demande d'exterminer les Amalécites. Parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu dit une telle chose. Remarquez, je vais lire la première partie, puis nous verrons la raison. 1 Samuel 15, verset 1. 1 Samuel 15, verset 1. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. » Si vous arrêtez ici, et que vous vous rapportez à Deutéronome 25, vous verrez le caractère des Amalécites et ce qu'ils ont fait, très similaire à ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui ou à ce qui s'y est passé. Deutéronome 25, verset 17 nous dit « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Dans la version anglaise, le verset ajoute « Ils n'ont pas craint Dieu. » Ils n'ont pas craint Dieu. Vous savez, nous disons cela, et certaines de ces nations avaient une certaine idée du Dieu d'Israël. Comme je vous le montrerai dans un petit moment, à propos de ceux qui craignaient Dieu. Mais les Amalécites n'ont pas craint Dieu. Ils allèrent attaquer les faibles, les traînards, peut-être les femmes, les enfants et les vieillards à l'arrière. Verset 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Comme Saül n'avait pas suivi ce que Dieu lui avait dit, Amalek a continué. Et nous avons l'attitude d'Amalek, et certainement certains des descendants d'Amalek, même aujourd'hui au Moyen-Orient. Remarquez le verset 24 de 1 Samuel 15. C'est après que Samuel ait confronté Saül. Saül trouvait toutes les excuses possibles, et il dit, « Eh bien, vous savez, nous avons gardé le meilleur de tout. En fait, ce sont les gens qui les ont gardés. Ce n'est pas moi. Mais ils les ont gardés pour votre Dieu, Samuel. Donc, c'est vraiment pour toi et pour ton Dieu. Mais c'était le peuple, pas moi. » Et après avoir été confronté de manière à ce que le message soit bien compris, au verset 24, « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, il comprend enfin le message, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Pourquoi? Parce que je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » La raison pour laquelle il a agi ainsi est donc la pression du peuple. Au lieu d'obéir à Dieu, ce qu'il aurait pu faire, il a craint le peuple et il a pris une très mauvaise décision, dont les conséquences sont encore présentes aujourd'hui. La plupart d'entre nous ne seront pas en mesure de détruire tous les Amalécites ou de régner sur un nouveau royaume, le royaume d'Israël. Alors, revenons à des considérations plus proches de nous. Revenons au tout début, à Genèse, chapitre 3. Et remarquons quelque chose ici. Nous lisons ceci pour de nombreuses raisons à différents moments, mais dans Genèse 3, nous lisons qu'Ève a pris du fruit et l'a donné à son mari, qui était avec elle. Et Dieu les a trouvés dans le jardin. Ils se cachaient. L'un d'eux a le pied qui dépasse d'un arbre. Et Dieu savait où ils se trouvaient depuis le début, mais ils essayaient de se cacher de Dieu. Dieu les confronte, et l'homme dit, « Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Tu m'as donné cette femme. Et c'est elle qui en est la cause. » Dieu se tourne vers elle, et elle lui répond, « C'est le serpent que tu as laissé entrer dans le jardin. » Dieu finit par leur dire ce qui va se passer au verset 17, et il dit à Adam, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Puis il ajoute, « Le sol sera maudit à cause de toi, et ça continue à partir de là. » Il a donc écouté la voix de sa femme. Nous pouvons émettre des hypothèses, et c'est ce que nous faisons parfois. Pourquoi a-t-il écouté sa femme? Elle devait lui faire les yeux doux, vous savez, les choses que font les femmes pour le persuader à le faire. Ou alors, il n'y aurait pas de paix, tant qu'il ne l'aurait pas fait. La cause n'est pas vraiment importante. Remarquez dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, verset 14. 1 Timothée 2, verset 14, dit, « Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Adam n'a donc pas été trompé. Il savait qu'il ne devait pas manger de ce fruit. Mais il a fait le choix de plaire à sa femme. Quelle que soit la raison, peu importe la raison, soit il n'y aurait pas de paix, soit il voulait lui plaire parce qu'elle utilisait ses ruses féminines, le fait est qu'il a fait passer Ève avant Dieu. C'est une chose à laquelle nous, les hommes, devons réfléchir. Parce que parfois, nous prenons des décisions dans nos familles parce que nous ne voulons pas avoir à nous en occuper. Qu'il s'agisse de la femme ou des enfants, nous ne voulons pas en entendre parler. Alors nous cédons et nous faisons des choses que nous savons ne pas devoir faire. Il y a des moments où nous devrions faire quelque chose d'une certaine manière, mais nous avons peur, que ce soit de notre femme ou de nos enfants, ou parfois de nos parents. Je parle des adultes qui ont leurs parents vivants, quelquefois les gens agissent ainsi. Très souvent, lorsque les gens apprennent ce qu'est Noël ou Pâques, ils voient bien que c'est d'origine païenne. Mais que font-ils? Ils ne veulent pas bouleverser le cours des choses. Ils ne veulent pas créer de division au sein de la famille. Ils ne veulent pas décevoir leurs enfants. Ils ne veulent pas avoir à faire face et à expliquer la vérité à leurs enfants. Ce qui se passe souvent beaucoup mieux que ce à quoi ils s'attendaient. D'une certaine manière, ils sont beaucoup plus enseignables dans ce genre de situation. Ils voient tout en noir et blanc. Si c'est mal, c'est mal. Maintenant, ils seront parfois un peu déçus parce qu'ils ne reçoivent plus les cadeaux qu'ils ont toujours eus. Mais pourquoi les gens prennent-ils ces décisions? Parce qu'ils ont peur de contrarier quelqu'un d'autre. Ils ne craignent pas Dieu. Ils craignent de contrarier les êtres humains. Dans Jean 9, nous trouvons ce qui était un problème pour de nombreuses personnes de l'époque, y compris les sacrificateurs. Nous pourrions consulter les Écritures à ce sujet où certains sacrificateurs, certains dirigeants, se craignaient les uns les autres plus qu'ils ne craignaient Dieu. Remarquez dans Jean 9, versets 20 à 22, il est question d'un individu qui a été guéri de la cécité, et il est amené devant les autorités qui lui demandent « Que s'est-il passé? Comment as-tu été guéri? » Il leur explique, puis ils reviennent et il leur dit « Je vous l'ai expliqué une fois, pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? » Et ils vont donc se tourner vers ses parents, et au verset 20, ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons, interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents en savaient manifestement un peu plus, car le verset suivant dit que ses parents témoignaient ainsi. Pourquoi? Verset 22, parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Ils auraient été exclus socialement d'avec les autres membres de la synagogue et jetés hors de l'Église. Ils étaient plus préoccupés par le fait d'être chassés de la synagogue que par le fait de défendre la vérité à cette époque. Il est intéressant que cela soit consigné ainsi. Nous pourrions dire qu'ils étaient prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Ils ont simplement dit « Il est majeur, interrogez-le ». Mais ils leur ont renvoyé la balle au lieu de dire « Oui, nous savons qu'il a été guéri, et voici comment il a été guéri. C'est ce que nous comprenons, c'est ce qu'il nous a dit. » Vous savez, les gens désobéissent à Dieu par peur de perdre leur emploi. C'est un gros problème pour beaucoup de gens. Ils désobéissent à Dieu parce qu'ils ont peur d'être ostracisés par leurs amis et leur famille, et parfois de perdre leur héritage. C'est une peur réelle que certaines personnes ont. Si vous suivez cette voie, vous perdrez votre héritage. Parfois, l'un des conjoints parvient à la vérité, et l'autre dit « Si tu vas dans cette direction, je vais dans cette direction. » Ils ont donc peur de perdre leur mariage. Ce n'est pas rien. Et humainement parlant, les gens rationalisent et se disent que cela ne vaut pas la peine de renoncer à mon mariage et peut-être de perdre mes enfants parce que l'autre personne pourrait les prendre. Quand il s'agit de craindre l'homme ou Dieu, il y a beaucoup de situations dans la vie où les gens choisissent de craindre les hommes, les femmes, même les enfants, plutôt que de craindre Dieu. Il est important que nous réfléchissions à ces choses, car il s'agit peut-être des exemples les plus extrêmes. Mais nous sommes toujours confrontés à ces questions. À qui vais-je obéir? Qui vais-je craindre, Dieu ou quelqu'un d'autre? Et trop souvent, il est facile de choisir une personne. Soyons honnêtes, la peur de l'homme est grande. Beaucoup des erreurs que nous commettons dans la vie sont dues au fait que nous faisons passer ceux qui nous entourent avant Dieu. Nous avons peur de l'embarras. Nous craignons le mécontentement des autres, la perte d'emploi, la perte de prestige, la perte de popularité. Les adolescents ne veulent pas aller à l'encontre de leur père parce que, en tant qu'adolescent, il est important de s'intégrer. C'est une période de la vie où la façon dont on s'intègre devient très importante pour nous. Et pourtant, nous savons tous, ceux d'entre nous qui sont plus âgés, que la plupart de ces personnes qui nous préoccupaient tant lorsque nous avions 15, 16 ou 17 ans, nous ne les avons même jamais revues. Je pense que dans toutes les personnes avec lesquelles j'ai été au lycée, finalement, j'en ai croisé seulement une avec laquelle j'ai passé un peu de temps, mais cela fait des décennies, et une autre que j'ai vue par hasard dans un magasin. Oh, je retire ce que j'ai dit, il y a une troisième personne, un couple qui est entré dans la vérité pendant un certain temps, mais à part ceux-là, et presque tous ceux-là sont tombés, et je ne les ai pas revus depuis des décennies. Je n'ai jamais revu personne avec lequel j'ai été au lycée depuis des décennies. Maintenant, vous pouvez dire, eh bien, vous êtes un vieil homme. D'accord, c'est juste. Mais tout ce que je peux dire, c'est ce que chaque adulte peut vous dire. Ces personnes qui sont si importantes pour vous en ce moment, que vous voulez satisfaire plus que vos parents ou plus que Dieu, ne feront pas partie de votre vie plus tard. Oh, vous avez une petite amie ou un petit ami, et vous pensez que vous allez vivre pour toujours avec eux. Mais combien de ces histoires durent-elles? La plupart du temps, nous en rencontrons plusieurs ou nous tombons amoureux plusieurs fois avant de nous marier. Aujourd'hui, 60% des femmes ne veulent même pas se marier. C'est ce qui ressort d'une enquête publiée cette semaine. C'est un tout autre aspect de la question. Mais le fait est que nous craignons davantage les êtres humains que les gens qui comptent vraiment, ceux qui sont vraiment importants. Si vous avez des problèmes, ce sont vos parents qui seront à vos côtés. Ce n'est pas le gars au bout de la rue qui vous a entraîné à vous mettre dans le pétrin, non. Ce sont vos parents qui seront à vos côtés. Même s'ils sont déçus, ils seront toujours là pour vous. Et finalement, qui sera là à la fin? N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu qui est important, et nous, les adultes, nous devons nous en souvenir, car nous essayons parfois de plaire à nos pères, nos voisins, ou même nos familles, plus qu'à Dieu. Prenons quelques exemples d'individus qui ont vraiment craint Dieu plutôt que les hommes, et les conséquences que cela a pu avoir pour eux. Dans Hébreux 11, il s'agit du chapitre de la foi. C'est ce que nous appelons le chapitre de la foi. Et nous lisons que de nombreuses personnes ont exercé leur foi. Et la foi est vraiment très impliquée dans ce chapitre, dans le fait de savoir que Dieu existe. Et comme il est dit au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croire que Dieu existe vraiment. » Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, diligemment. Donc, la vraie foi signifie que nous savons que Dieu existe, et que nous savons qu'il nous jugera un jour, qu'il nous récompensera. C'est lui qui peut nous donner la récompense de la vie éternelle, ou qu'elle ne nous soit pas donnée. Ce qui implique que nous ne l'avons pas, il peut nous la donner, ou ne pas nous la donner. Mais ici, au verset 24, il est dit, « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. » C'est facile à lire pour nous. Mais voici Moïse à un poste très élevé au sein du gouvernement égyptien. Il est le fils de la fille de Pharaon. Une situation très prestigieuse. L'historien Joseph a écrit concernant Moïse. Je pense qu'il le présentait comme une sorte de guerrier ou un capitaine de l'armée. Vous pouvez vérifier dans ses écrits. Verset 25, « Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. » Le plaisir du péché pour une saison, comme le dit l'ancienne King James. Verset 25, « pour un temps la jouissance du péché, ou le péché pour une saison, le plaisir du péché pour une saison. Verset 26, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Remarquez, il ne craignait pas la colère du roi. Ce n'est pas qu'il ignorait qu'il pouvait attirer sur lui la colère du roi, car il s'est enfui après avoir tué un individu. Mais pour ce qui est de ne pas craindre la colère du roi, il avait déjà choisi de s'aligner sur son peuple plutôt que sur les Égyptiens. Il a donc choisi de craindre Dieu plutôt que le roi. Verset 27. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible, et il s'est tourné vers Dieu, et l'a craint plus qu'il n'a craint le roi. Il y a un passage intéressant dans Exode 1. Je crois que j'ai déjà abordé ce sujet il n'y a pas très longtemps. Mais dans Exode 1, il est question de deux personnes qui ne sont pas des Israélites. Tout semble indiquer qu'il s'agit d'Égyptiennes et non d'Israélites. Mais dans Exode 1, verset 15, le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Des noms amusants. Et il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Il semble que ce devrait être le contraire, mais c'est ainsi qu'il a procédé. Verset 17, « Mais les sages-femmes craignirent Dieu. » Les sages-femmes craignirent Dieu. Et ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants mâles. Verset 18, le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants mâles? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la vérité. Mais c'est ce qu'elles ont dit. Vous savez, certaines de ces situations sont intéressantes lorsqu'on les examine sous cet angle. La question se pose. Je ne veux pas lancer une grande controverse à ce sujet, mais disons que vous cachez un Juif pendant la Seconde Guerre mondiale et que les nazis viennent à la porte et disent « Cachez-vous un Juif ?» Que répondez-vous? « Oh oui !» Je ne crois pas. Nous ne devons pas apporter de faux témoignages contre notre prochain. Et il est dit dans l'Apocalypse que tous les menteurs auront leur part dans l'étang de feu. Mais il y a des situations où il y a un conflit. Et comme David avec les pains de proposition, il y a des moments où il faut prendre des décisions. Encore une fois, je ne veux pas ouvrir une controverse ici. Mais il est intéressant que les sages-femmes disent que les femmes des Hébreux, en d'autres termes, elles ne parlaient pas vraiment d'elles-mêmes, mais les femmes des Hébreux sont très vigoureuses et qu'elles accouchent à l'avance. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Dieu les a donc récompensées parce qu'elles ont fait passer Dieu en premier. Elles n'allaient pas commettre de meurtre. Et il est dit qu'elles craignaient Dieu. Maintenant, permettez-moi de lire. Je pense que j'ai déjà lu cela auparavant, mais je veux le lire à nouveau. Il s'agit du commentaire de Dennis Prager sur le livre de l'Exode, dans The Rational Bible. Monsieur Prager est juif et il faut donc parfois faire attention parce qu'il a un très fort parti pour les juifs. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Mais il dit à propos de cette situation, la Torah ne dit pas que les sages-femmes ont sauvé les bébés parce qu'elle ne pouvait pas supporter de leur faire du mal. Elle ne dit pas non plus que les sages-femmes ont sauvé les bébés hébreux parce qu'elles aimaient Dieu. Elles ont sauvé les bébés parce qu'elles craignaient Dieu. La crainte de Dieu comporte un aspect moral important. Les gens craignent ceux qui sont plus importants qu'eux. Par conséquent, la seule façon de ne pas craindre les puissants est de craindre Dieu. Ainsi, dans l'exemple rapporté ici, ceux qui ont craint Dieu ont sauvé les bébés hébreux. Ceux qui craignaient Pharaon ont aidé à noyer des bébés hébreux. Rappelez-vous que ce n'est pas l'amour de Dieu qui a motivé l'héroïsme moral des sages-femmes. À notre époque, de nombreuses personnes invoquent le commandement d'aimer Dieu, mais ignorent ou même dénigrent le commandement de craindre Dieu. Si de nombreux croyants en Dieu s'engagent dans des abnégations héroïques par amour de Dieu, la plupart des croyants en Dieu sont moraux au quotidien parce qu'ils croient qu'ils seront jugés par Dieu. Nous pourrions dire en bien ou en mal. C'est pourquoi, par exemple, dans les sociétés occidentales traditionnelles, les gens les plus raffinés étaient régulièrement décrits comme craignant Dieu et non comme aimant Dieu. Lisez le livre des Actes, il est question de la crainte de Dieu par les gentils. Il y avait les Israélites, puis les gentils qui craignaient Dieu. Cette terminologie est intéressante. M. Prager ajoute, « C'est la crainte de Dieu des sages-femmes qui les a libérés de la crainte du tyran égyptien. Ce point est souvent négligé. La crainte de Dieu est une émotion libératrice qui libère de la peur invalidante des personnes malveillantes et puissantes. Il faut insister sur ce point, car de nombreuses personnes considèrent que la crainte de Dieu est contraignante plutôt que libératrice. Il s'agit évidemment d'un équilibre. Nous aimons Dieu, mais il y a un temps pour la crainte de Dieu, et encore une fois, nous prenons de nombreuses décisions parce que nous craignons les gens plus que nous ne craignons Dieu. Reportons-nous maintenant au livre de Daniel. Encore une fois, un passage très familier. Il n'y a rien de nouveau. Daniel, chapitre 3. C'est là que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu des ennuis avec le roi, un individu très puissant qui avait le pouvoir de vie et de mort par sa seule parole. Il pouvait exécuter quelqu'un, le jeter dans une fournaise ardente, le jeter dans une fosse aux lions, bien qu'il s'agisse d'un autre roi plus tard. Néanmoins, il avait cette autorité. Il était à la fois juge, jury et bourreau. Nous lisons donc ici dans Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. C'est le moment où il leur a donné une autre chance. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si nous comprenons bien, tu as dit qu'aucun Dieu ne peut nous sauver, mais voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. C'est une déclaration assez audacieuse. Il ne cherchait pas un faux fuyant pour se protéger d'une manière ou d'une autre. Regarde. Nous ne pouvons pas. Notre Dieu nous dit que nous ne pouvons pas. Non, ils ne s'excusaient pas. Ils ont simplement dit que le roi sache que nous ne servirons pas tes dieux. Pouvez-vous imaginer l'affront que cela a dû représenter pour Nebuchadnezzar, qui n'était pas habitué à ce que les gens lui parlent ainsi? Verset 18. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage à l'égard de ces individus. Il y a de fortes chances que c'est ce qui s'est passé. Et il s'est dit, attisons le feu davantage et voyons alors ce qui se passera. Comme je l'ai dit souvent, ces trois hommes ne connaissaient pas la suite de l'histoire. Nous la connaissons. Nous connaissons le reste de l'histoire et nous pouvons donc nous asseoir ici en toute confiance et dire, oh, j'aurais fait ce qu'ils ont fait. Oh, je ne sais pas. Je l'espère. Mais combien de fois pensons-nous réagir d'une certaine manière jusqu'à ce que nous soyons sur place et que nous soyons choqués ou surpris de ne pas agir avec autant d'audace que nous le pensions? Je me souviens d'une fois, je crois que c'était un vendredi en fin d'après-midi, je me trouvais dans le quartier pour aller chercher quelque chose tout près de chez moi et, sans entrer dans les détails, j'ai vu cette voiture être percutée juste devant moi par un type de camion Ben à fond double qui transportait beaucoup de betteraves et il avait deux remorques à l'arrière. Et c'était une petite voiture qui tournait à gauche, juste devant ce véhicule qui l'a percuté, et la peinture de sa voiture a éclaboussé sur la mienne. Pas beaucoup, mais vous savez, des éclats de peinture. Je l'ai vu juste avant que cela ne se produise, parce qu'elle était si proche. Et vous pensez que vous pouvez rester calme dans une telle situation? Certaines personnes seraient très calmes. Je pense que je ne l'étais pas. J'ai été choqué en quelque sorte par ma réaction. Cela m'a vraiment dérangé. Maintenant, je pense que cela dérangerait n'importe qui. Mais comment réagissez-vous dans une telle situation? Parfois, nous pensons que nous agirions d'une certaine manière, et ce n'est pas le cas. Donc, ils se trouvaient dans cette situation où ils allaient être jetés dans cette fournaise, et il est facile pour nous de lire l'histoire et de dire « Oh, j'aurais fait de même ». Le ferions-nous vraiment? Regardons quelques pages plus loin, au chapitre 6. Un autre cas. C'est la situation de Daniel, où certains individus savaient qu'ils ne pourraient pas coincer Daniel sur la base d'accusations légitimes. Ils ont donc persuadé le roi de promulguer un décret stipulant que personne ne pourrait adorer un autre dieu que le sien pendant un certain temps. Nous lisons ici dans Daniel 6, verset 10, ce qui s'est passé lorsque Daniel a su que l'écrit était signé. Qu'a-t-il fait? Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. En d'autres termes, il n'a pas changé son comportement. Vous savez, il y a un contraste très intéressant avec ce qui se passe dans le livre de Deux Rois. Parce que nous lisons quelque chose au chapitre 5. Que nous aurions probablement été plus enclins à faire en tant qu'être humain. Il s'agit d'individus extraordinaires qui ont risqué leur vie. Et je ne doute pas qu'il y ait ici des gens qui, quand il le faut, mettront leur vie en jeu. Mais nous devons aussi nous souvenir de l'époque de l'Église universelle et de ce qui s'est passé. Et lorsque les choses se sont précipitées, combien de personnes se sont levées et ont craint Dieu, et combien de personnes ont craint les êtres humains et ont pris la mauvaise direction? La majorité a pris la mauvaise direction, l'écrasante majorité. Et pourtant, il y a ceux qui sont ici et qui ont pris la bonne décision. Et il y a beaucoup de gens qui entrent dans l'Église parce que nous avons pris la bonne décision à ce moment-là. Mais ici, dans 2 Rois 5, nous lisons l'histoire d'un homme appelé Naaman. Il était chef de l'armée syrienne et il était lépreux. Sa femme avait une jeune servante qui lui dit que s'il allait voir l'homme de Dieu en Israël, il le guérirait. Ils ont donc dû faire des recherches et ils ont emporté de grands présents, de l'or et de l'argent, des vêtements de rechange et ainsi de suite. Et ils sont allés voir Élisée. Ils arrivent à la maison d'Élisée, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. » Naaman est vraiment offensé par cela, et il se dit, « Il va agiter les mains, il va dire abracadabra, il va faire quelque chose de spécial, et c'est comme ça que je serai guéri. » Il a dit, « Écoutez, j'ai des meilleures rivières là d'où je viens. » Ses serviteurs ont fait preuve de bon sens et lui ont dit, « S'il t'avait demandé de faire quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, alors pourquoi ne pas le faire? » Et il l'a fait, il a été guéri. Il est revenu à essayer d'offrir ses présents à Élisée. Mais au verset 16, Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2000 lait, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Cela semble être une demande étrange, 2000 lait de terre. À l'époque, il pensait qu'il y avait un dieu de la Syrie, un dieu d'Édom, des dieux de Moab, des dieux des Assyriens et un dieu d'Israël. Il pensait que c'était plus territorial. Donc, si je pouvais prendre un peu de terre, je prendrais votre Dieu avec moi, dans un sens. C'est ce qu'il devait penser. Et Élisée le laisse faire, bien sûr. Au verset 17, Naaman dit, « Sinon, qu'on donne à ton serviteur 2000 lait de terre, car ton serviteur n'offrira plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux, mais à l'Éternel. » Cependant, verset 18, « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. » Il sait donc que ce qu'il demande, c'est la permission de pécher. Verset 18, « Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Ce n'était pas un Israélite, ce n'était pas quelqu'un à travers qui Dieu travaillait directement comme il le faisait avec Israël. Vous avez parfois ces autres individus, que ce soit le roi Nebuchadnezzar, que ce soit Pharaon ou d'autres, Dieu les a utilisés à sa manière. Mais il ne les appelait pas de la même manière qu'il appelait Israël. Verset 19. Élisée lui dit, « Va en paix. » Il est parti pour une courte distance et l'histoire s'est poursuivie. Mais le fait est qu'il a demandé à faire quelque chose que Daniel aurait pu faire. Lorsqu'il fut dit à Daniel et à tout le peuple, « Vous ne pouvez invoquer aucun autre Dieu pendant cette période », il aurait pu retourner dans sa chambre, s'allonger sur le lit et prier Dieu de cette façon. Il aurait pu raisonner et se dire qu'il adorait Dieu, mais qu'il changeait son comportement. Mais il ne l'a pas fait. Et nous savons qu'en conséquence, il a été jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu l'a protégé. En d'autres termes, il n'allait pas permettre que ce décret du roi, dans ce cas, où il lui demandait clairement de faire quelque chose pour modifier son adoration de Dieu, il n'allait pas permettre que cela se produise, contrairement à Naaman, qui était dans une catégorie très différente, bien sûr. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait parfois un clin d'œil, comme il est dit dans Actes 19 ou 17, à des choses qui appartenaient au passé, mais il appelle maintenant tout le monde à la repentance. Naaman était prêt à servir Dieu ou à ne pas sacrifier à un autre Dieu, mais il avait toujours peur du roi, n'est-ce pas? Alors, quand le roi se penchait sur lui, il s'inclinait, et dans son esprit, il se disait, « Je vais prier le vrai Dieu, ou je vais rester ici à genoux, sans rien faire. » Comme cela serait facile dans une telle situation. Sommes-nous prêts à nous lever? Craignons-nous Dieu ou craignons-nous l'homme? Je me demande souvent où se trouvaient les autres Juifs à Babylone, que ce soit lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner devant l'image, où se trouvaient les Juifs lorsque Daniel fut mis au défi. Nous ne lisons rien au sujet des autres. Il s'agit de deux incidents distincts, mais nous sommes sûrs que Daniel ne s'est pas prosterné devant la statue, et nous sommes sûrs que Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas modifié leur adoration de Dieu. Nous ne savons pas exactement où ils se trouvaient et ce qui s'est passé, mais c'est à Daniel qu'ils s'en prenaient, C'est lui qu'ils essayaient d'arrêter et c'est donc lui qui a fait l'objet d'un examen minutieux. Dans Hébreux chapitre 11, nous savons que certains n'ont pas été délivrés dans cette vie. Il est dit qu'Ésaïe fut scié en deux. C'est ce que nous dit la tradition. Et dans Hébreux 11, nous lisons que la suite de l'histoire ne s'est pas toujours bien passée pour les serviteurs de Dieu. Mais à la fin, parce qu'ils seront ressuscités pour une grande récompense, et nous allons tous mourir dans cette vie de toute façon, alors la façon dont nous mourrons, je suppose, n'est pas toujours le problème. Mais dans Hébreux 11, verset 35, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, torturées en anglais, et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux. C'est ce qui est écrit. Et la tradition veut que ce soit ce qui est arrivé à Ésaïe. Que cette tradition soit vraie ou non, le fait est que l'Écriture dit que certains ont été sciés en deux. Dans un musée de la torture à Mexico, il y a quelques années, il y avait un diagramme montrant comment ils les sciaient en deux, avec la tête en bas pour que le sang continue à les maintenir en vie un peu plus longtemps, puis ils les attachaient et les coupaient par le milieu. Verset 37. Ils furent torturés. Ils moururent par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Nous avons des frères au Myanmar qui ne veulent pas être enrôlés dans l'armée. Ils savent que ce n'est pas ce qu'ils devraient faire, alors ils se cachent dans les montagnes et les jungles en ce moment. Quand il est dit qu'ils erraient dans des peaux de moutons et des peaux de chèvre, il se peut qu'ils souhaitent avoir des peaux de moutons ou de chèvre en ce moment. Nous avons vu quelques photos de là-bas et c'était boueux, humide et pluvieux pour ceux qui ont fini par atteindre l'une des villes où ils pouvaient rester avec des parents ou d'autres membres. Mais ceux qui ont atteint l'âge de la conscription en ce moment, c'est ce qu'ils doivent faire, parce qu'ils veulent obéir à Dieu. Ils ne veulent pas s'engager dans l'armée. Ils ne veulent pas choisir leur camp entre les militaires et les rebelles. Ils veulent obéir à Dieu. Il est dit au verset 37, « Persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. » Nous parlons de foi. Et cette foi signifie qu'il mettait Dieu en premier. Il craignait Dieu plutôt que les hommes. Nous voyons qu'il n'est pas mauvais de craindre l'homme. Nous voyons qu'Ebed-Melech, cet individu qui a épargné la prison à Jérémie, dit « Je vais te sauver de ceux que tu crains ». Romains 13 nous dit également que nous devons craindre, comme il se doit, ceux qui détiennent l'autorité. Mais lorsque les choses se gâtent, qui craignons-nous le plus? Il est naturel d'avoir peur. Il est important d'avoir peur. Il y a des moments où il est bon de fuir. Si un lynx ou un cougar vous poursuit, je ne suis pas sûr que courir vous aidera, mais il y a des moments où il faut le faire. La peur est une émotion importante que nous avons. Mais il est tout aussi important de la maîtriser. Proverbe 24, verset 21-22 nous dit « Mon fils craint l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Il y a toujours des radicaux qui veulent tout bouleverser. Car soudain, leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Dieu et le roi peuvent apporter les châtiments. Il est intéressant de noter que dans Apocalypse 21, la toute première chose qu'on nous dit à propos de ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu, ce sont les lâches. Remarquez Apocalypse 21, verset 8. Apocalypse 21, verset 8. Il dit, mais pour les lâches, les incrédules, et cela va ensemble, vraiment. Les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Il parle des lâches. Nous devons faire preuve de courage. Et la meilleure façon de savoir ce qui se passera si une grande épreuve nous frappe est de savoir comment nous gérons les petites épreuves, les épreuves de la vie quotidienne. Faisons-nous passer en premier ce que nous savons être juste aux yeux de Dieu? Ou nous contentons-nous d'abandonner et de céder pour ne pas bouleverser la charrette de pommes des autres? C'est difficile, n'est-ce pas? Quand on y réfléchit bien, c'est un sujet crucial. La peur est naturelle et aussi une émotion nécessaire. Mais nous devons hiérarchiser nos peurs. Il n'est pas faux de craindre les hommes. Ils peuvent avoir beaucoup de pouvoir sur nous, mais il est faux de craindre les hommes plus que Dieu. Il n'y a pas d'égalité ici. Reportons-nous à Psaume 27. Verset 1. Psaume 27. C'est un cantique qui n'est pas dans notre livre de cantiques, mais nous l'avons tous entendu, je pense, à la fête ou ailleurs. C'est un beau cantique qui est chanté. C'est l'un de mes préférés que j'ai entendu au fil des ans. Il est difficile de le lire sans essayer de le chanter. Mais je pense que vous préféreriez que je le lise plutôt que de le chanter. Il dit au verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? » De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ainsi, le choix dépend vraiment de vous et de moi. C'est à vous de choisir. De qui aurons-nous peur? Qui allons-nous craindre? Dieu ou les hommes?